Bonjour Ahmad Asghari.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici. Nous vous retrouvons donc à Tarbes où vous vivez depuis plus de 40 ans maintenant. Vous êtes iranien, Ahmad, et vous allez nous parler de la manière dont vous suivez, vous vivez l'actualité depuis samedi, depuis notamment l'éclatement de cette guerre avec samedi matin la mort de l'ayatollah Khamenei. Mais d'abord, on va s'intéresser à votre pays, l'Iran. C'est un pays dont on ne parle pas souvent et là, depuis quelques jours, on en parle à longueur de journée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre pays ?
C'est un grand pays avec près de 90 millions d'habitants et 7000 ans d'histoire, placé au centre de Moyen-Orient, donc ce qui lui donne une importance stratégique très importante vu les réserves d'hydrocarbures qu'il y a dans la région. Et justement à cause de ça, à cause de son emplacement stratégique, l'Iran a toujours été le lieu d'ingérence et toutes sortes d'interventions politiques, militaires, étrangères qui sans cesse bouleversent en fait le destin de ce pays et de ce peuple. Et ce qui est transmis à travers les médias du courant dominant, disons, malheureusement reflète plus les intérêts des uns et des autres que l'intérêt du peuple iranien. Souvent, quand j'écoute ou j'entends parler de l'Iran, je me rends compte que les gens ici essayent de présenter le peuple iranien soit comme victime, soit comme manipulé. Jamais comme acteur de leur propre destin, alors que ce peuple a montré depuis toujours qu'il veut, qu'il tente par tous les moyens, en payant un prix très fort, le fait de vouloir être acteur de son destin, y compris là récemment au mois de janvier, on l'a vu avec le massacre de plusieurs dizaines de milliers, même si les chiffres sont très difficiles à vérifier, mais tous les recoupements nous laissent craindre en fait entre 30 et 50 000 morts le 8, le 9, le 10 janvier. Tout de suite, un mouvement qui s'est un peu calmé vu l'ampleur des massacres, mais de suite après, il y a eu des étudiants dès l'ouverture des universités qui ont commencé à leur mouvement de contestation. Et je suis tenté de dire que depuis l'agression américano-israélienne de ces derniers jours, la première victime de cette guerre, les premières victimes étaient justement les mouvements de contestation.
Alors, en fait, là, vous nous décrivez un peuple qui, au fond de son cœur, ne subit pas et a une soif de liberté qui n'est pas nouvelle. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. C'est que tout d'un coup, nous, on a l'impression de découvrir un peuple qui se réveille. Mais vous êtes en train de nous dire, Ahmad, qu'en fait, ce peuple-là, il a toujours aspiré à la liberté et s'est toujours battu pour ça.
Tout à fait. C'est-à-dire, si on retourne un petit peu, on ne va pas retourner très longtemps en arrière, mais 1979, la révolution iranienne, que beaucoup ici parlent de la révolution islamique. La révolution de 79, j'y ai participé, n'était pas islamique. Le pouvoir issu de cette révolte ou insurrection est devenu islamique, sous l'œil bienveillant de l'Occident. Donc, les gens sont descendus dans la rue, face à la dictature du régime de Shah, du Shah d'Iran, pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice sociale. Au fond, dans la prise du pouvoir suite à la révolution, la chute du Shah et la prise du pouvoir par la République islamique, je pense qu'on peut parler d'une victoire, parce que, bon, effectivement, le Shah a été renversé, mais de la défaite de la révolution. Parce qu'aucune de ces revendications n'a été réalisée.
Et ça a recommencé ensuite avec le nouveau régime.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que les arrestations, la répression des mouvements démocratiques, progressistes, de gauche, ou pas forcément de gauche, tout ce qui aspirait à une société plus ouverte, juste et démocratique, dès le lendemain ont été réprimés.
Mais pourquoi alors? Pourquoi ça recommence tout le temps? Pourquoi quand le peuple se soulève et a l'impression de gagner, pourquoi très vite ça retombe et ça recommence sans cesse?
Parce que Enfin, des raisons peuvent en être multiples. La première qui me vient à l'idée, comme on a vu récemment, c'est une répression qu'ici, on a du mal à imaginer.
Oui.
Une répression, et ensuite des manipulations qui viennent de l'étranger. Et à chaque fois, il y a des forces obscures, je dirais, qui font détourner les mouvements, ils les divisent de l'intérieur. Là, comme on l'a vu récemment, tout l'Occident qui essaye de nous imposer une alternative qui vient de l'extérieur, en la personne du fils de Shah d'Iran, et avec un renfort impressionnant des médias, le présenter comme étant le seul alternative possible en Iran. Personne, à aucun moment, ne pose la question de légitimité. On parle de quelqu'un, on veut le mettre au pouvoir dans un pays important du Moyen-Orient. Personne ne lui pose, en tout cas au moins directement, quelle légitimité.
Mais est-ce que dans l'état actuel des choses, un mode de régime, une personne, une équipe, pourrait être légitime dans ce pays tel qu'il est aujourd'hui ?
Moi, je pense, j'ai toujours pensé que la légitimité est une affaire de terrain. Ça veut dire que si on libère, par exemple, si on arrive à la libération de tous les prisonniers politiques en Iran, et ils sont nombreux.
Ils sont combien ? Vous avez on a une idée ?
Sincèrement, non. Je ne vais pas vous dire des chiffres comme ça, mais toutes les prisons sont pleines.
De prisonniers politiques ?
De prisonniers politiques. C'est-à-dire que vous regardez tous nos intellectuels, tous nos syndicalistes, tous nos étudiants, tous nos écrivains, tous nos poètes, tous nos artistes. Donc tous ces gens-là sont soit en prison,
ouais,
soit ont été tués, soit, en tout cas, à un moment donné, ils sont passés par la case prison et ils sont en exil. La légitimité réelle, naturelle, sort des luttes du peuple sur le terrain. On veut nous faire croire que, par exemple, le fils du Shah d'Iran a une légitimité, mais sa légitimité, à part le fait qu'il soit le fils d'eux, voyez. Donc,
le fils du Shah d'Iran, qui ne vit pas en Iran, hein, qui est parti depuis longtemps, est le fils de celui que vous avez fui il y a plus de 40 ans maintenant.
En fait, moi, j'ai participé à la révolution contre le régime de son père, en fait.
Ouais.
Et après, j'ai dû partir en 1983, à cheval, comme je vous l'ai dit.
Vous me l'avez dit en off. Peut-être qu'on peut raconter comment et pourquoi, à quel moment exactement et pourquoi vous avez fui l'Iran à cheval.
Alors, en fait, moi, j'étais au collège en Angleterre. Je suis retourné en 78 en Iran. Et j'ai participé donc à la révolution contre le régime du Shah d'Iran. Février 79, la République islamique prend le pouvoir. Et nous, en tant que jeunes de gauche qui étions engagés dans la révolution pour la justice sociale et la démocratie et tout ça, nous sommes entrés très rapidement en opposition à la République islamique. Et notre opposition à la République islamique on a payé le prix fort. Beaucoup, beaucoup de cette génération ont été emprisonnés, torturés, violés en prison, exécutés. Et ceux qui, comme moi, on a eu de la chance, on a pu s'enfuir. Donc moi, j'ai dû partir par la frontière turque en traversant cette frontière à cheval et demander l'asile politique à l'ambassade de France en Turquie. Donc je suis arrivé en France en novembre 1983, à 12h30. Et ça, c'est un moment...
Vous vous en souvenez vraiment avec précision.
C'était un moment très particulier, parce que pour tout exilé, il y a avant et après. C'est-à-dire qu'il y a un changement, un tremblement de terre dans la vie d'une personne, c'est l'exil.
Mais quand vous êtes arrivé ici, ce jour-là, à 12h30, vous vous êtes dit, ça y est, je suis enfin libre pour toujours, ou bien vous vous êtes dit, je suis là pour quelque temps et je vais y retourner?
Alors nous, quand je suis parti, j'avais des motivations politiques, donc j'appartenais, enfin j'étais sympathisant d'une organisation politique. Donc c'est en tant que militant que j'étais parti pour venir ici retrouver d'autres militants de la même organisation et continuer le combat, trouver les moyens de continuer de nous battre. Malheureusement, la répression en Iran a fait que le retour était presque impossible. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et depuis, on se consacre en toute humilité, loin du terrain, à la dénonciation du régime, faire connaître la nature de ce régime et expliquer, faire l'écho de ce que nous, on a comme information de l'intérieur, en fait faire le relais des voix qui nous viennent de l'Iran.
Finalement, ce combat-là que vous aviez dans les années 70-80 avec le Shah, eh bien, c'était le même avec l'ayatollah Khamenei ?
Pour nous, oui. C'est-à-dire que sans vouloir faire des comparaisons entre ces deux régimes, parce que c'était des périodes différentes, machin, et donc peut-être de nature différente, mais le fait que ça soit deux dictatures, sans doute, le fait qu'ils répriment leur peuple, sans doute, le fait que les intérêts du plus grand nombre du peuple iranien ne soient pas respectés, n'aient pas été respectés par ces deux régimes, oui. Donc c'est un combat toujours pour la justice sociale et la démocratie.
Pendant toutes ces années, comment le peuple iranien resté là-bas, lui, comment ce peuple a évolué? Vous mentionnez tout à l'heure, vous mentionniez cette culture, ces artistes, ces écrivains, ces intellectuels, ça c'est une réalité, ils sont là. Comment cette population, la jeunesse aussi iranienne, évolue dans ce contexte?
Alors, ils résistent par tous les moyens à leur disposition, là où ils peuvent et quand ils peuvent, hein. On a, vous vous souvenez, en 2022, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, ils résistent. Et malgré tout, malgré la répression, les arrestations, ils arrivent à obtenir des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez en Iran, bon, je parle avant l'agression militaire, si vous allez en Iran, vous voyez une bonne partie des femmes qui sont sans voile. Le régime, sans le décréter, disons, officiellement, dans les faits, a été obligé de reculer. Sur certaines choses, le peuple obtient des résultats, malheureusement pas toujours, mais la résistance en Iran s'organise. Vous avez qu'à regarder le cinéma iranien, les poètes, les femmes.
Mais on a toujours l'impression quand même qu'ils prennent un grand risque à chaque fois qu'ils font quelque chose, à chaque fois qu'ils ont un peu d'audace.
Ah oui, alors là, c'est-à-dire que nous, on est... regardant ça de loin, on est en admiration. Oui. C'est-à-dire que vous descendez dans la rue pour contester, vous risquez votre vie. C'est aussi simple que ça. Hein.
Et des ouvriers, que vous soyez un homme ou une femme.
Ça ne change rien. Quand les ouvriers, parce qu'il y en a énormément de grèves ouvrières dont on parle très peu ici, et qui ne sont pas payés à des arriérés de salaire sur 3, 4, 5, 6 mois, quand ils descendent enfin pour contester, demander leur salaire, et ils sont étiquetés d'ennemis du peuple et atteinte à la sécurité nationale. Une fois que vous avez cette étiquette-là, vous êtes bon pour la prison ou l'exécution. Nous, on a des camarades syndicalistes en Iran, qui ont été arrêtés de multiples reprises, torturés, y compris torture chimique. Ça veut dire qu'on leur a injecté tout simplement des produits chimiques. Cette personne est sortie de prison dans un état impressionnant. Mais le courage, alors c'est impressionnant. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On ne peut pas leur donner de directives, faites ci, faites ça, c'est ridicule. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire relayer leurs paroles, relayer les informations, dénoncer les mensonges qui sont distillés par tous les médias à droite et à gauche.
Par exemple, allez, donnez-nous un exemple d'un ou deux mensonges vraiment que vous voulez dénoncer et démentir.
Alors la plus grande, c'est que là aujourd'hui, les États-Unis et Israël interviennent pour instaurer la démocratie en Iran.
Justement, c'était la question que je voulais vous poser ensuite. Quand vous voyez samedi matin les États-Unis et Israël qui annoncent qu'ils ont tué l'ayatollah Khamenei et qu'ils l'ont fait pour que le peuple iranien retrouve sa liberté, vous vous dites quoi? Vous vous dites « ouf, enfin, ils viennent nous aider » ou est-ce que vous vous dites « mais en fait, ce combat n'est pas le leur et c'est à nous de le gérer » ?
Alors moi, je vais vous l'avouer en toute franchise, j'ai été content pendant 5 minutes.
De la mort de l'ayatollah.
J'ai appris de l'ayatollah. Mais de suite après, je me suis dit, j'aurais préféré quand même qu'il soit jugé devant la justice. Et puis, j'ai regardé l'histoire récente du Moyen-Orient. Ce n'est pas la première intervention pour la démocratie, entre guillemets. Vous regardez le cas libyen, le cas irakien, le cas syrien, le cas somalien, le cas yéménite. Est-ce que la démocratie est arrivée dans ces pays-là? La démocratie ne tombe jamais du ciel, surtout pas avec les bombes. Ça, c'est le plus grand mensonge qu'on essaye de faire avaler aux gens ici, que voilà, encore les États-Unis sont venus pour la démocratie. Mais regardons ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. La démocratie, ce n'est pas du Coca-Cola qu'on va exporter. La démocratie iranienne viendra, ça sera le résultat des luttes du peuple iranien. Ils définiront leur propre démocratie, comme ils l'entendent en corrélation avec l'histoire, la culture.
Et vous croyez que ça arrivera un jour, que c'est possible?
Je n'ai pas de doute, sinon je ne militerai pas.
Un deuxième mensonge peut-être, et puis après on va aller vers la fin de cette interview, mais peut-être un deuxième mensonge que vous voulez dénoncer.
Alors, le deuxième mensonge, c'est prétendre que puisque, parce qu'on l'entend aussi de la part d'une certaine gauche, malheureusement, que puisque la République islamique d'Iran se bat ou est en bagarre avec les États-Unis d'Amérique, c'est un pays anti-impérialiste, donc de ce fait, il faut quand même le soutenir. Alors, il ne s'agit pas dans ces cas-là, il faut dire à ces personnes que ce n'est pas de l'anti-impérialisme, mais c'est de l'anti-américanisme primaire parfois. C'est-à-dire que si un gouvernement est réellement anti-impérialiste, moi je veux bien, je ne demande que ça en fait, il se bat pour la justice sociale, il n'emprisonne pas, il ne réprime pas les libertés, il ne réprime pas les femmes, il ne réprime pas les ouvriers, les mouvements sociaux. Donc le mensonge est de deux côtés parfois. Et nous, ici, enfin, j'essaye humblement de tenir une ligne de crête. Parfois, je me sens très seul, mais c'est comme ça. L'intérêt du peuple. Là, quand vous regardez toute la scène, ce qui se passe, et quand je regarde la télé, il n'y a personne, mais personne, ou très peu, qui parle du droit international, de Nations Unies. C'est fini. C'est vraiment fini.
Ahmad, on arrive à la fin de cette interview. J'aimerais que vous nous parliez, pour terminer, de votre vie ici à Tarbes. Alors, la communauté iranienne à Tarbes, elle est petite. Hein. Vous me disiez, avant de préparer cette émission, vous êtes une vingtaine, peut-être un peu plus si on regarde à l'échelle des Hautes-Pyrénées et encore un peu plus à l'échelle d'Occitanie. Mais enfin, c'est une petite communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, eh bien, finalement, je préférais être en Iran pour mener le combat en Iran. Est-ce que votre vie, elle est à Tarbes aujourd'hui et pour toujours? Enfin, comment vous envisagez votre vie?
Alors, je vais vous avouer un secret. C'est que le rêve secret de tout exilé, d'où qu'il vient, c'est le retour. C'est-à-dire qu'on est tous mieux là où on est né. Donc moi, il ne se passe pas un jour, surtout en ce moment, sans penser à l'Iran, sans penser aux membres de ma famille qui sont encore en Iran. Heureusement, j'ai eu des nouvelles hier, tout le monde va bien.
Ils sont dans quelle partie de l'Iran?
Alors, ils sont à Téhéran, mais ce quartier-là n'a pas été touché. Donc, mais on pense tous, bien sûr, avec beaucoup d'inquiétude à l'Iran. Même si des joies passagères après, à la suite de mort de quelques responsables, mais la réalité se rappelle très vite. Et donc on sait que les bombes, il n'y a pas de guerre propre. Donc on est inquiet, et on pense à l'Iran tous les jours, mais effectivement, il faut se rendre à l'évidence. En tout cas, le retour, ce n'est pas pour demain. Donc, il faut quand même vivre. Donc, moi, je suis saisonnier sur la ville de Lourdes. Donc, je mène des combats, en toute humilité, que ça soit au niveau syndical, ici, et au niveau politique en Iran. Voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Aman Asghari. Et on retient cette phrase que vous nous avez dite il y a quelque temps. La démocratie ne tombe jamais du ciel et surtout pas avec des bombes. Voilà ce qu'on retient de cette interview aujourd'hui. Merci.
Merci à vous. Merci.